Je ne regrette rien, une série en 6 épisodes sur la vie, l'œuvre et la carrière d'Édith Piaf. Dans le premier épisode, il fut question des origines familiales, des années d'errance, d'une adolescence de misère, des premiers pas en carrière de la môme Piaf. Dans ce deuxième épisode, nous passerons de la môme Piaf à Édith Piaf. La carrière de la chanteuse s'installe, évolue, s'impose, alors que plane sur l'Europe le spectre de la guerre. C'est payé. Deuxième épisode.
Un sujet qui est très difficile à aborder, c'est la jeunesse. Parce qu'on critique toujours la jeunesse. Enfin, on. Certaines personnes critiquent la jeunesse, elles oublient qu'elles aussi, elles ont été jeunes. Et que quand on est jeune, mon Dieu, on ne raisonne pas beaucoup. On se laisse un petit peu aller à son impulsion, à ses envies, à son enthousiasme, ou à son non-enthousiasme, selon la mode. Mais vraiment, je reste persuadée que la jeunesse a toujours un cœur, quelles que soient les époques. Et des fois, elle le cache, mais un jour ou l'autre, ça finit par sortir. Le cœur finit par prendre le dessus, et puis elle se révèle telle qu'elle est.
Extrait tiré de l'album Tête à tête, enregistré au début des années 60. Après avoir fréquenté quelques boîtes obscures à la suite de la mort de Papa Leplé, le véritable tremplin qui va propulser la carrière d'Édith Piaf, ce fut son apparition en avril 1937 sur la scène de l'ABC, la plus célèbre salle de music-hall de Paris à l'époque. Elle n'y est pas la vedette. Elle assure la première partie d'artiste dont la réputation est déjà bien établie. Elle y revient 3 fois au cours de cette année 1938, dont la dernière avec Charles Trenet, qui, libéré de ses obligations militaires, séparé de son partenaire Johnny S., débute sa carrière solo. Raymond Asseau, dont la présence est de plus en plus importante dans la vie de la chanteuse, tout à la fois parolier, gérant et amant, lui écrit un lot de chansons sur les thèmes chers à Édith ou « Soldat »,« Légionnaire »,« Marin beau et fort »,« Viril à souhait » font rêver et pleurer des femmes passionnées, dépendante, soumise et résignée pour l'amour de ces hommes du large, de ces hommes absents, bagarreurs et parfois voyous. Reprenant le souvenir qu'elle lui a raconté, Asseau a composé une version améliorée de L'amant de la coloniale sur une musique de Marguerite Monneau, Mon légionnaire.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot résonne. Je ne sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau. Il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
Des propos à faire rugir les féministes qui pourtant, à l'époque et depuis, s'en émeuvent toujours. Si le message des chansons, autant que les textes, laissent à désirer, le miracle, c'est la voix et la musique. L'interprétation de ces chansons d'amour blessées ou trahies qu'en fait Piaf secoue et bouleverse. Robert Bellerey.
Même si on comprenait pas les paroles, on était touché par cette voix extraordinaire, je dirais presque unique, ben voilà, qui transmettait l'émotion, le frisson. Et il y avait à la fois une qualité de timbre et une puissance aussi, qu'elle avait sans doute acquise en chantant très jeune. Parce qu'il faut savoir qu'elle n'a pas commencé à chanter dans les rues adolescentes, elle a commencé beaucoup plus tôt. Elle chantait dans les villes et les villages quand elle avait 8 ou 9 ans. Elle commençait déjà à chanter. C'est-à-dire que sa voix, elle l'a forgée, non pas au conservatoire, mais comme ça, dans la rue. Elle a appris à la porter, à la faire entendre au dernier étage des immeubles, dans les cours, en plein vent, sous la pluie. Ce qui explique sans doute qu'elle avait cette puissance, encore une fois, assez extraordinaire, qui lui permettait aussi de chanter à un mètre du micro, et sa voix embrasait immédiatement les plus grands music-halls.
Désormais, Édith Piaf, qu'on a à outrance associée à son passé de misère, à son côté tragique, est devenue une artiste que l'on prend de plus en plus au sérieux. La critique lui reconnaît maintenant les qualités d'une interprète qui s'impose. La chanson sera sa vie et l'artiste plonge aveuglément dans la carrière, ne refusant aucun engagement, au point de mettre en danger sa santé et son équilibre. L'épuisement et le surmenage obligent Raymond Asso à lui imposer tout un été de repos dans une maison loin de Paris où elle s'ennuie et s'adonne au tricot. Peu soucieuse de l'actualité, pas dérangée par la politique, mais les rumeurs d'une guerre imminente l'inquiètent pour son avenir. Pourra-t-elle continuer de chanter? Revenue à Paris pour la rentrée d'automne, des contrats à Bobineau, à l'Européen, la rassurent. Pour empêcher qu'elle recherche la compagnie de Momone, son âme damnée, Raymond Asso lui assure les services d'une jeune secrétaire, Suzanne Flon, qui connaîtra plus tard une importante carrière au théâtre et au cinéma. Dans cette même période, Édith fera une rencontre majeure, Marguerite Monod, musicienne et compositrice de talent qui mettra en musique la plupart des textes qu'écrira Piaf plus tard. Deux natures opposées qui vont se compléter et former le premier tandem féminin créatif de la chanson française, jusque-là dominée par les gars, ce qu'affirme Robert Bellerey. Le petit monsieur triste.
Le petit monsieur triste qui ne sort que la nuit a de très gros ennuis, mais c'est un égoïste, il les garde pour lui. Et tous les gros ennuis du petit monsieur triste le suivent dans la nuit, courent derrière lui, galopent sur la piste du petit monsieur triste qui a des tas d'ennuis. Le petit monsieur triste a beaucoup de chagrin, sa femme aimait Chopin, lui n'était pas pianiste, et le regrettait bien. Or sa femme un matin, lui vit un grand pianiste, qui jouait du Chopin, pour faire du chagrin au petit monsieur triste, qui n'était pas pianiste, et le regrettait bien.
Le succès tant espéré devient réalité au début de 1939, et Raymond Asso y est pour quelque chose, tant dans l'éducation de sa protégée que dans la création de son répertoire. Mais, début septembre, Asso est appelé sous les drapeaux, ce qui marque la fin de leur collaboration. Si les débuts de la guerre modifient sensiblement les habitudes des gens, l'univers du spectacle de variété n'y échappe pas, sauf pour quelques vedettes, dont Édith Piaf. De tout l'automne 1939, elle remplit et enthousiasme le nightclub rue Arsène Houssaye, alors que l'amiral, tout à côté, connaît un rapide déclin et la revue où un fantaisiste peu connu, Paul Meurice, tente sans succès, en levée de rideau, de réchauffer la salle à moitié vide. Fils de bourgeois, formé en droit, il s'essaie à la fantaisie dans un numéro d'humour jouant l'aristocrate peint sans rire. Un soir, décontenancé par le peu de succès de son numéro, il se présente au cabaret voisin rempli à pleine capacité et y découvre Édith Piaf, qui, telle une dompteuse, tient son public sous le charme de sa voix et de sa présence en scène. Les deux artistes sont présentés, des liens se créent rapidement. L'intimité s'installe si bien que Piaf traverse du nightclub à l'amiral et draine avec elle son public. Déconstruit le numéro de Meurice, s'y intègre et en fait un succès, ce qui fera dire à ce dernier plus tard qu'il lui doit tout, particulièrement de lui avoir permis de rencontrer Jean Cocteau. Cocteau et Piaf se connaissent et sont suffisamment intimes pour qu'elle lui demande des textes de chansons ou un sketch, comme il l'avait fait pour d'autres artistes auparavant. Cocteau lui écrira en quelques semaines « Le bel indifférent », un monologue à deux personnages, l'héroïne, interprétée par Piaf, y déverse sa colère, sa jalousie et ses rancœurs pendant près de 40 minutes à un partenaire complètement muet qui lit son journal. Paul Meurice, qui ne dit pas un seul mot, a été remarqué pour sa présence en scène et son attitude désinvolte devant l'hystérie de la femme. Malgré l'occupation allemande, l'orageux couple Piaf-Meurice s'en tire plutôt bien. Les temps sont durs et les privations sévères, comme en témoignent les lettres de sa mère, Annetta Maillard, suppliant sa fille de lui venir en aide. Pour Piaf, les engagements se multiplient, de la salle Pleyel à l'ABC, à Bobineau, toutes remplies de bourgeois à l'aise qui ne dédaignent pas côtoyer les officiers allemands qui se plaisent et se complaisent à la vie nocturne parisienne. Après avoir perdu Raymond Asso, mobilisé, et fait un deuil de circonstances, Édith, au début de l'année 1940, reçoit un jeune homme lui aussi mobilisé, Michel Aimer, également compositeur. Il vient lui proposer une chanson intitulée « La fille de joie est triste ». La chanson plaît à Piaf, elle l'écoute, la lui fait répéter, l'apprend sur le champ et l'ajoute aussitôt à son tour de chant. Plus tard, quand elle l'enregistre, ce sera sous le titre de « L'accordéoniste ».
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts s'égayent de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter sa physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique.
C'est elle, d'ailleurs, qui, quelques mois plus tard, sur la scène de Bobineau, eut l'idée d'y accélérer le tempo et d'y ajouter une chute tragique, en criant après un moment de silence « Arrêtez, arrêtez la musique », appuyée d'un geste qui crée son effet tragique. L'année 1941 va marquer un tournant important dans la carrière d'Édith Piaf, une carrière qui ne semble pas souffrir de la guerre. Elle, qui, presque illettrée, se bat avec l'orthographe et la grammaire, se lance dans l'écriture de chansons et s'avère une parolière douée avec un sens de l'image et du rythme indéniable. Puis, un premier rôle au cinéma lui est offert dans « Montmartre sur Seine ». Elle sera la vedette de cette histoire d'une jeune marchande de fleurs qui chante dans les rues, qui sera découverte et deviendra une grande chanteuse. Elle y interprète quelques chansons remarquées, dont « J'ai dansé avec l'amour », qui fait dire à Boris Vian qu'elle a le talent d'une chanteuse de blues. Paroles d'Édith Piaf, musique de Marguerite Monneau. J'ai dansé avec l'amour. Le film, qui connut un succès mitigé malgré la notoriété de Piaf, a le mérite de révéler au grand public Paul Meurice et Henri Vidal. De plus en plus populaire, Edith passe une grande partie de l'année 1942 dans la France libre, c'est-à-dire au sud. Invitée à Monaco, au casino de Nice, à Alger, à Marseille, elle sillonne la Côte d'Azur jusqu'à l'automne. À Paris, zone occupée, elle est attendue et, pendant des semaines, chante dans les grands cabarets, à guichets fermés, devant des parterres remplis d'officiers allemands. Comme si l'occupation et le rationnement n'existaient pas, Piaf a des contacts. Elle engage un cuisinier et, tous les soirs, même tard dans la nuit, amis et collègues parasitent l'appartement où champagne et caviar sont servis à satiété. On répète puis on chante jusqu'à l'aube, aux grandes dames du voisinage. À deux occasions, en 1943 et 1944, Piaf va en Allemagne chanter dans les camps de prisonniers ou, pour les ouvriers, du service du travail obligatoire. Dans l'histoire, ces épisodes demeurent obscurs. De sa propre initiative ou sous la contrainte, les versions divergent. À la libération, au moment des comptes à rendre, Piaf, soupçonné d'avoir collaboré avec le régime de Vichy, qui tentait de montrer que les relations avec l'Allemagne étaient bonnes et voulait faire la preuve que les prisonniers étaient bien traités, signe une déclaration où elle affirme y être allée par contrainte. La première fois, à demi-salaire, la seconde, gratuitement. Est-ce bien la vérité? Ce que l'on sait, c'est que ces voyages ne se sont jamais vécus dans l'indigence. Bien au contraire. C'est ainsi que, soupçonnée de collaboration, Edith Piaf, que la guerre n'a pas empêchée de chanter, d'enregistrer, d'honorer de multiples engagements dans les plus prestigieuses salles de France, apparaîtra sur la liste des artistes provisoirement interdits sur les ondes de Radio Paris et devra se justifier devant un comité où elle énumère tout ce qu'elle aurait fait pour aider ses compatriotes. Des faits pour la plupart invérifiables. Elle affirme n'avoir jamais chanté pour les Allemands lors de ses deux voyages, de l'avoir fait que pour les prisonniers français ou pour les ouvriers du STO, et qu'elle aurait contribué à l'évasion de plusieurs. À la fin de l'année 1945, le cas Piaf est examiné. Elle est non seulement blanchie, mais félicitée, alors que d'autres ont été interdits quelques mois ou même emprisonnés. C'est ainsi qu'elle aurait vécu la guerre. Entre les convocations et les règlements de compte, les polémiques sur les droits d'auteur et ses examens d'admission à la Société des auteurs-compositeurs-éditeurs de musique, la vie continue et elle chante au Moulin Rouge en août 1944. On lui propose en première partie un jeune fantaisiste arrivé de Marseille où il connaît un succès assez grand, dans divers numéros inspirés des Américains débarqués en libérateur depuis peu. Le jeune fantaisiste en question s'appelle Yves Montand et il fait un peu cow-boy. Encore peu connu à Paris, Piaf exige de l'entendre en audition avant de l'accepter en ouverture de son spectacle. Ni la voix, ni les chansons ne la séduisent, mais, je la cite, tiré de ses mémoires, « une personnalité du tonnerre, une impression de force et de solidité, des mains éloquentes, puissantes, admirables, un beau visage tourmenté, une voix grave et miracle, presque pas d'accent marseillais. » Dans les plaines du Far West.
Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Ils fredonnent au son d'un harmonica une vieille chanson de leur beau Texas. Et leur chant est répété par l'écho syncopé, par le rythme d'un banjo. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis.
Il n'en fallait pas davantage qu'elle entreprenne de mettre à sa main ce garçon en qui elle perçoit le potentiel pour la chanson et pour le cinéma. Elle va renouveler son répertoire en lui écrivant même quelques titres et une tournée s'organise. Ambitieux, le jeune homme apprend vite et son étoile qui brille d'abord aux côtés de Piaf va bientôt briller par elle-même. Elle l'impose au cinéma dans le film « Étoile sans lumière » écrit pour elle. L'idylle va durer plusieurs mois et sur la rupture, comme chaque fois d'ailleurs, les versions divergent. Il est difficile d'établir qui a laissé l'autre. Lors d'un gala en 1944, Piaf rencontre les Compagnons de la musique, qu'elle retrouve en tournée 2 ans plus tard sous l'appellation « Les Compagnons de la chanson ». Ils sont 9 garçons, entre 20 et 30 ans. Elle porte soudain toute son énergie sur ces jeunes hommes dont elle trouve le répertoire charmant, mais désuet. Il faut tout changer, rajeunir l'image. S'ils ont d'abord refusé d'interpréter les 3 cloches, qu'ils accepteront finalement de faire avec elle, ils ont accepté de renouveler leur répertoire, empruntant à Jacques Larue, à Gilbert Bécaud, Francis Lemarque et même à Georges Brassens. En mai 1946, au Club des 5, avec La Marie et Le Marchand de Bonheur, c'est la révélation, l'enthousiasme, le délire dans la salle. Le Marchand de Bonheur.
Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bon vent de l'amour. J'ai les 4 saisons pour aller flâner et semer des moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal pour vous aimer et du mal pour pleurer. Mais moi j'arrive à temps, à temps c'est bien normal pour aller réparer ce que vous déchirez. J'ai les 4 saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon.
C'est au Théâtre de l'Étoile, où Yves Montand vient de quitter l'affiche, que Piaf fait sa rentrée d'automne. En première partie, les compagnons auxquels vient de se joindre un certain Paul Buissonneau, qui va devenir chez nous le célèbre piccolo de la boîte à surprises. À l'occasion de cette rentrée, elle va oser ajouter à son répertoire une chanson qu'elle avait écrite d'abord pour son amie Marianne Michel, qui lui en avait fait la demande un après-midi où les deux femmes parlaient du métier dans un cabaret des Champs-Élysées. Piaf, qui avait une musique en tête, la fredonna et griffonna sur la nappe en papier. « Quand il me prend dans ses bras, je vois les choses en rose. » Marianne Michel corrigea aussitôt « Les choses en rose » pour « La vie en rose. Marianne Michel fut la première à interpréter la chanson. Piaf ne l'a reprise que 2 ans plus tard pour en faire le succès que l'on connaît.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur.
Yves Montand soutiendra que c'est en pensant à lui que Piaf écrivit cette chanson qui fut traduite en 12 de langues, au moins. Interprétée aussi bien par Marlène Dietrich, Placido Domingo, que Diane Dufresne et Madonna. Début janvier 1947, lors d'une émission de radio, Piaf fait la connaissance du duo Pierre Roche-Charles Aznavour. Ce qu'ils font lui plaît, l'amitié s'installe et elle les associe à sa tournée avec les Compagnons. Elle, qui a surtout visité les pays voisins de la France, entreprend une tournée qui l'amène en Grèce et en Scandinavie, mais son rêve demeure l'Amérique. Elle exige que les Compagnons soient aussi du voyage, ce qui n'intéresse pas l'impresario américain. Les négociations sont ardues, mais elle a gain de cause, et après une nuit à Londres, le 10 octobre 1947, Édith Piaf et les Compagnons de la chanson s'embarquent à Southampton sur le prestigieux Queen Elizabeth en direction de New York. Les trois cloches.
De la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici, quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est jour plus tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection dans les amours.
Sources et documentation, Robert Belleret, Piaf, un mythe français. Édith Piaf, au bal de la chance. Joël Monserrat, Édith Piaf. Marc Bonnel, Édith Piaf, le temps d'une vie. Prise de son, montage et mise en onde, Yannick Caron. Recherche, choix musical, texte et narration, Yves Houd.
Devant Dieu, dans la vieille église, ce jour il se chante.
Toutes les cloches sonnent, sonnent, je leur vois d'écho en écho, merveilleusement sonnent.
Comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs, et puis fruit mûr.
cloche sonne, sonne. Elle chante dans la vente, obsédante et monotone. Elle redit au vivant, ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe à tombe. Vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'homme.